Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tu sais, moi je suis pas fan de Big Lebowski. Hein.
Ah oui, c'est vrai, t'es un connard, j'avais oublié.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine remonte le temps jusqu'aux heures glorieuses de l'Hollywood des années 50, celui que mettent en scène les redoutables frères Coen dans leur nouveau film Ave César avec un ensemble cast de pure folie et leur inimitable sens du rythme, l'occasion de nous replonger rapidement, trop rapidement sans doute, dans leur épaisse et passionnante filmographie. On ne parlera pas de tout, mais on fera de notre mieux pour en causer autour de la table ici autant qu'un duo là aussi, même s'ils ne sont pas frères, quoique je ne sais pas. Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné, épisode 40 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ave César signe donc le grand retour des frères Coen, Joël et Ethan, aux affaires sérieuses, enfin sérieuses façon de parler, puisqu'ils renouent surtout avec la comédie débridée qu'ils maîtrisent si bien, avec une nouvelle fois une tripotée d'acteurs de premier choix, George Clooney en tête dans le rôle de Baird Whitlock, acteur star kidnappé par des margoulins sur la piste desquels se met Josh Brolin, alias le fixeur Eddie Mannix, quel nom formidable, Eddie Mannix j'adore, une quête où se croisent et se mêlent les destins de Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill, toujours parfait, mais aussi Ralph Fiennes, la fidèle Frances McDormand, Tilda Swinton, et même Christophe Lambert, oui madame, fierté nationale plus plus.
I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie.
Truth, yes.
Eddie.
Bon, Yannick Dahan, piève d'impatience comme à chaque fois qu'on évoque les Coen, alors je me tourne immédiatement vers lui. Yannick, il est comment avec César?
Je piève d'impatience.
Oui,
comment te dire? Moi je peux difficilement faire dans la nuance avec les frères Coen, parce que tout le monde sait, de ceux qui regardent mon émission, en tout cas, que je suis un inconditionnel des Coen et que je considère que c'est les plus grands réels, que je me mets en général une règle d'honneur qui n'est de jamais évoquer un film des frères Coen quand je ne l'ai vu qu'une fois, ce qui est le cas. Donc ce sera vraiment une réaction à chaud, et c'est toujours difficile parce que chez les Coen, il y a toujours mille niveaux de lecture, et ce qui m'intéresse n'est jamais fondamentalement le premier. Donc c'est vrai que quand on le voit et qu'on parle, comme tu dis, de comédie débridée, moi quand je regarde un film des Coen, je l'inscris toujours dans la réflexion que je peux avoir sur toute leur filmographie et les thèmes qu'ils abordent et leur façon d'appréhender la condition humaine à travers des genres très ancrés dans le cinéma américain. Donc c'est toujours très difficile pour moi de détricoter à une première vision un film des frères Coen. En termes de ressenti, moi je trouve toujours ça aussi brillantissime que la plupart des précédents. La première chose qui m'a sauté aux yeux, après on rentrera dans différentes digressions sur les Coen, mais la première chose qui m'a frappé, c'est que pour moi, il y a, alors je vais pas appeler ça un retour en arrière, parce que pour moi c'est pas un retour en arrière, mais c'est revenir au cinéma que moi je considère être le cinéma des Coen pré-True Grit. C'est-à-dire que quand j'ai vu True Grit, ça a été un choc pour moi qui avait beaucoup réfléchi sur les frères Coen, beaucoup écrit sur les frères Coen. C'était un choc parce que c'était la première fois que je ressentais une volonté assumée, entre guillemets, même si le final est toujours désenchanté, mais de s'effacer derrière une émotion. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une forme de premier degré à certains moments dans True Grit qui faisait que j'avais les poils qui se hérissaient sur les bras, chose qui n'existait pas avant, parce que les frères Coen avaient une volonté claire de toujours poser une espèce de distance intellectuelle et cérébrale à leur film, même si tu pouvais prouver moult autres émotions, mais ça a toujours été pour moi des réals qui m'ont stimulé intellectuellement de manière très très forte, même si j'étais pas des fois capable de comprendre où ils voulaient en venir, ça me tournait le cerveau. Et True Grit était le premier qui ne fonctionnait pas sur ce registre là, tout à fait. Et je l'avais même ressenti dans Initial Duvin Davis, que je trouvais
c'est ce que j'allais dire.
Était une sorte de négatif de Barton Fink, mais que je trouvais beaucoup plus émotionnel que pouvait l'être Barton Fink. Donc du coup, quand je tombe sur Ave César, je tombe sur un film que je pourrais mettre juste après Le Grand Saut, fondamentalement, c'est-à-dire un film qui est dans la première partie de leur carrière, extrêmement ironique, extrêmement sarcastique, avec beaucoup de distance intellectuelle, un jeu de sale gosse comme on peut en avoir, comme il pouvait y en avoir au début, mais une réflexion qui est vraiment dans cette droite ligne. Ce qui est assez frappant, et on en reparlera après, mais ce qui est assez frappant sur tous les premiers films des frères Coen, c'est qu'il y a une peinture de l'Amérique qui est évidente, mais c'est pas une peinture de l'Amérique. Hein. C'est pas, je vais vous parler que de l'Amérique. C'est j'utilise l'Amérique, je détourne, j'autopsie les genres fondateurs de l'Amérique, et à travers ça, je raconte toujours des tentatives de libération, de personnages qui essayent de se libérer de certains dogmes, qui peuvent être des dogmes politiques, religieux, économiques, ce qu'on veut, et qui systématiquement échouent. C'est-à-dire que quelque part, c'est toujours le libre-arbitre contre le système, quel que soit le système. Système idéologique, système culturel, tout ce qu'on veut. Et ça se termine toujours dans des espèces de, comment dire, de conclusions, de résignation, de compromissions impossibles, même si elles sont fondamentalement drôles des fois, mais c'est toujours un twist au final. qui te reste dans la gorge, tu te dis j'ai suivi la tentative de ce gars-là et je m'écroule. Ce qui est le seul film pour moi qui se raccroche à Vesozar, c'est justement Big Lebowski, parce que c'est le seul film, c'est les deux seuls films des frères Coen où au final le personnage principal n'échoue pas lamentablement. Dans le cas de Big Lebowski, les choses reviennent à la normale parce que ce personnage est d'entrée hors du système. Il est d'entrée non pas soumis à aucun dogme. Il est spectateur de ce qui se passe autour de lui. C'est cette espèce de véritable homme de la rue, entre guillemets, que les Coen pourchassent depuis une dizaine d'années. Et avec ce final où on se rappelle le Deus Ex Machina balançant, c'est rassurant de voir un mec comme ça. Bon. Et Eddie Mannix, dans celui-là, malgré toutes les péripéties qui peuvent sembler absurdes, termine par un choix. C'est un choix qu'il a fait. Alors c'est un choix de soumission, entre guillemets, au monde dans lequel il était, mais qui n'est pas une compromission. Il faut pas oublier ce qu'ont dit les frères Coen. On peut parler de la comédie, on pourra parler de tout ce qu'est le film réellement derrière, mais quand les Coen disaient c'est quoi, on leur demandait c'est quoi avec César, ils disaient c'est un film sur la ville, le cinéma, la foi et la religion. Pour moi, c'est exactement ça. Donc voilà, le film commence d'ailleurs avec Eddie Mannix dans un confessionnal, si tu veux, et il se termine avec les frères Coen qui sont symboliquement très clairement montrés dieux. Comme des dieux. Donc c'est ça qui est, qui est
là,
évident.
Enfin, ils sont les dieux du film en l'occurrence dans la logique de comment dire avec César, voilà, c'est que en gros ils sont à construire. Moi, le problème, enfin, moi j'ai un souci avec le film et j'ai un souci avec les Coen quand ils font de la comédie depuis Big Lebowski, en fait. Moi je vais un peu jeter un pavé dans la mare, j'aime pas trop Big Lebowski.
Ça, c'est incompréhensible.
Moi je le comprends en fait sous un angle très simple, hein. C'est-à-dire que pour moi jusque là les frères Coen, c'est la précision absolue, c'est-à-dire en termes de cinéma et la nouveauté. Quand je vois un film comme Big Lebowski, je trouve ça un peu lâche. Alors on peut Yannick me contredira probablement, l'analyser sous plein d'angles en fait, mais le problème c'est que l'angle comique pour moi ne fonctionne quasiment jamais dans Big Lebowski, et il ne fonctionne pas dans Burn After Reading, il ne fonctionne pas dans celui-là en l'occurrence, dans Ave César. C'est pas très grave, on peut retrouver en fait, le problème moi que j'ai avec ces films-là, et notamment sur celui-là par exemple ou Burn After Reading, qui sont pour moi plus jumeaux en termes de confection, hein. Je parle pas en termes de thématique forcément, mais en termes de confection, c'est que c'est des films en fait de cinéphiles, c'est la cinéphilie des frères Coen qui s'affiche dans ces films là en l'occurrence on détourne le cinéma d'espionnage, comme dans les Lady Killers par exemple, ils détournaient les films des studios Ealing des années 50-60. Dans celui-là on détourne tous les genres hollywoodiens par excellence, c'est-à-dire ceux de la grande époque, donc t'as les comédies musicales, t'as le western, t'as tous ces films-là en fait, et les grands drames sociaux, classe à la Audrey Hepburn, et tous ces films-là en fait sont détournés, Ce qui me pose problème là-dedans, c'est que pour moi, c'est des novateurs en fait, les frères Coen. C'est des gens qui sont, enfin, c'est comme ça que j'étais toujours perçu depuis que je les suis en fait. C'est-à-dire depuis la première fois que j'ai vu Arizona Junior à l'époque en 88-89, quoi, en vidéo. Et j'ai toujours trouvé incroyable en fait que les types puissent se réinventer à chaque fois avec chaque nouveau film et réinventer ces gens-là complètement. Là, en l'occurrence, je trouve que justement, depuis Big Lebowski, ils ont un peu arrêté de faire ça dans les comédies. dans leurs drames, ils sont passionnants, ils ont cette même précision, cette même façon de fonctionner au cordeau, quoi, où tout, tout a un sens. Là, en l'occurrence, quand je regarde ce film-là, j'ai beau être amusé, par exemple, par le personnage de Scarlett Johansson, j'ai du mal à comprendre à quoi il sert vraiment dans l'intrigue et en fait, en quoi on pourrait pas l'enlever finalement de tout ce que le personnage d'Eddie Mannix traverse, au-delà du fait qu'il y ait une péripétie supplémentaire pour le convaincre, en fait, de rester dans ce boulot qu'il fait, en fait. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs lâches comme ça où je me dis bon, cette rythmique parfaite, cette mise en scène parfaite auxquelles les frères Coen m'ont habitué, y compris dans des effets hyper grossiers. Moi je me rappelle à l'époque de Blood Simple, la première fois que la caméra passait sur le bar au-dessus du poivreau, je me suis dit comment ils vont faire pour traverser cet obstacle. Ils le faisaient, ça fonctionnait parfaitement, t'avais pas du tout, voilà. C'est probablement la distanciation dont parle Yannick, hein, à la base, sur ce type de sujet, de polar. Là, je trouve qu'en fait, il y a plein d'effets qui, bon, voilà, tombent un peu à côté de la plaque. C'est sympa d'avoir des caméos, c'est sympa d'avoir Christophe Lambert, c'est sympa d'avoir tous ces trucs-là, hein, d'avoir voilà, mais ouais, mais je trouve ça un peu, voilà, je sais pas. Moi, j'ai du mal à savoir où ils veulent en venir, comme quand, par exemple, à l'époque de Burn After Reading, je savais pas trop où ils voulaient en venir au final.
Je mettrais pas du tout les deux films sur le même plan. Mais, Yannick.
Bon, oui, mais je comprends ce qu'il veut dire. D'autant qu'en plus sur Ave César, il y a énormément de gimmicks déjà présents dans énormément film des frères Coen, une sorte de compile de gimmicks qui étaient un peu séparés les uns des autres dans les autres films. Bon, sur plusieurs aspects de ce que dit Stéphane, le détournement, de toute façon, c'est même pas du détournement pour moi, c'est le fondement de leur cinoche, c'est une autopsie des gens, c'est-à-dire on reprend des gens. Bon, c'est vrai que celui-là en particulier a ce côté, encore une fois, compile de gens à investir, mais pas tant que ça en réalité. Je vais pas rentrer sur des explications, des analyses, parce que comme je l'ai dit, moi il me faut toujours plusieurs visions, ouais. et j'y trouve toujours une consistance énorme, même sur des films où des fois je me dis cette scène je la comprends pas, et quand je recreuse un petit peu à l'intérieur je vois où ils ont voulu en venir. En ce qui concerne l'humour, c'est très particulier, parce que là-dedans, effectivement, on a un mélange. Par moment, on a du slapstick, par moment, on a du screwball, par moment, on a différents types d'humour qui sont brassés, qui sont encore de l'humour extrêmement référentiel à travers cette cinéphilie. Mais la cinéphilie, chez les Coen, c'est pas comme chez Tarantino ou chez d'autres, elle ne sert pas à traduire leur passion d'un genre ou pas, c'est leur culture. Ce n'est pas le sujet. La cinéphilie, chez les Coen, a toujours une vocation. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les genres qu'ils investissent. Quand ils investissent du Capra, qu'ils investissent du film noir à la Dashiell Hammett, qu'ils investissent des genres comme ça, c'est des mythes fondateurs qu'ils investissent. Le mythe peut devenir système. Chez les frères Coen, il y a toujours cette volonté de questionner le mythe qui fédère. Ça a toujours été ça depuis le début. Qui plus est, j'ai envie de dire, dans un film comme Ave César, où c'est la question de la croyance qui est fondamentale. Alors, foi, religion, après, il faut rentrer dans le détail sur qu'est-ce que ça signifie. Il y a Hollywood, institution. Il y a la croyance en un dieu. Est-ce que les frères Coen sont un dieu auquel il vaut mieux croire que l'institution hollywoodienne? Et tout ça est traduit en filigrane dans le film, où moi, ce que je considérais drôle, en fait, si tu veux, c'est ça, moi, qui me plaît. C'est que des fois, je ne vois pas où ils veulent en venir. Et il arrive toujours un moment où tous les éléments épars s'imbriquent et forment quelque chose d'extrêmement consistant pour moi, sur lequel il me faut du temps pour en arriver à comprendre ce qu'il veut dire. Mais je finis là-dessus, après on peut en recommencer. Mais quand je prends un peu de recul sur Ave César, je me dis de quoi ça me parle, en fait. Et ce que je retiens essentiellement, et je suis d'accord avec toi, je n'ai pas encore théorisé la raison d'être de Scarlett Johansson ou de Christophe Lambert, mais il faut peut-être pas la théoriser, et peut-être que c'est juste un gimmick fun, et ils le font, et ça leur arrive, et c'est pas un problème là-dessus. Et je vais pas essayer de tout justifier parce que c'est les frères Coen. Moi, c'est des scènes qui m'ont plu pour des aspects.
Les personnages sont sympas en soi,
différentes choses aussi. Mais le cœur du récit, moi, ce que je trouve être marrant, c'est d'avoir un fixeur qui a un cas de conscience, c'est-à-dire je suis le Cerbère d'une institution dont je connais l'envers du décor, donc je ne peux pas être dans la croyance. Je suis celui qui aide à la production de croyances. Je me retrouve face au kidnapping d'un acteur peu teubé, mais qui est donc l'incarnation de cette croyance-là véhiculée, qui se fait kidnapper par des putains de scénaristes communistes, et qui va avoir une espèce de révélation vis-à-vis du discours anticapitaliste, anti-système de ces communistes, qui est exactement le même que son personnage de général romain qui découvre le message de Jésus.
Je pense que le plus grand gag là-dedans, c'est quand même d'aller chercher George Clooney pour jouer ce rôle-là.
Exactement. Ouais. Mais ce que je veux dire, ce parallèle du film dans le film, mais cette mise en parallèle, si tu veux, de ces deux révélations, moi, il suffit à me filer une banane incommensurable quand je vois clowner devant les scénaristes communistes en train d'écouter. Il faut quand même pas oublier le sens, il y est, il faut quand même pas rêver. Je veux dire, quand t'as ce mec là qui tout d'un coup, c'est un faux kidnapping, enfin entre guillemets, mais quand il se barre de ce kidnapping où il a rien arrivé, si ce n'est qu'il a découvert la lueur venue de l'Est et qu'il débarque dans le bureau d'Eddie Mannix et que l'autre lui dit où est-ce que t'étais, il sait, mais tu sais qu'on est un système tyrannique qui conditionnons les gens et tout ça, et que Mannix lui file deux paires de baffes en lui disant, écoute, tu vas devenir une star, tu vas là-bas et tu fais rêver les gens. Tout y est, tu vois.
C'est un outil.
Hein,
c'est un outil en gros, c'est ce qu'il lui dit.
Oui,
soit une star act.
Voilà, joue. Voilà. Donc c'est quand je disais que c'était en retour entre guillemets en arrière, c'est que autant il y avait des personnages dans True Grit, dans Inside Llewyn Davis, ce que j'appelle moi des personnages organiques, charnels, qui ont une émotion, qui ont des émotions dans lesquelles on se reconnaît. Autant les précédents films sont souvent les personnages sont des allégories, sont souvent des symboles. Dans celui-là, c'est complètement ça. Moi, je vais avoir besoin de temps pour le digérer, tu vois. Mais j'ai pris de nouveau un plaisir de stimulation intellectuelle comme je ne l'avais pas ressenti depuis Barton Fink, tu vois.
Après, moi, le détail sur lequel j'insistais plus à la base avant que tu partes dans tout ça, c'est que, en gros, si tu veux, les genres dont tu parles, le fait qu'ils investissent tous ces genres-là parce que c'est leur propre culture et c'est la façon dont ils ont grandi, la façon dont ils régurgitent ça. C'est une chose, mais le truc, c'est quand tu regardes Arizona Junior, bon, Miller's Crossing, par exemple, tu le sais que c'est un film de gangster, mais quand tu regardes Arizona Junior, par exemple, ça a beau être une screwball comédie, tu reconnais absolument aucune screwball comédie. Mmh. Je veux dire, chez Capra, quand tu dis qu'ils reprennent Capra, le grand saut, il y a aucune... Enfin, le grand saut, c'est filmé d'une manière que Capra n'a jamais filmé, en fait. Oui, là, c'est moins évident, justement, je trouve, depuis Big Lebowski, en fait, depuis leur comédie, je les trouve beaucoup plus légères. Je mets une exception un petit peu sur O Brother, que j'aime beaucoup, pour d'autres raisons aussi, et puis surtout cette façon de réinterpréter l'Odyssée. Mais le truc, c'est que toute cette précision de mise en scène qu'ils avaient auparavant, moi, je la trouve vraiment, à un moment donné, un peu lourdée, et puis plus très inventive, en fait. Encore une fois, au regard des frères Cohen.
Je comprends ce que tu dis. C'est quelque chose que moi, j'avais remarqué aussi, mais alors j'y avais donné mon interprétation à moi, et qui est très liée à ce que je te dis par rapport à l'émotion et tout ça. Faut voir la carrière de ces mecs. C'est quand même des mecs qui ont effectivement, au-delà de tout ce que je peux y dire en termes thématiques et d'investissement de genre, étaient au départ des jeunes réalisateurs qui voulaient exister, donc qui ont rué dans les brancards. Arizona Junior est très sous influence Sam Raimi, faut pas se leurrer, il y a énormément d'emprunts mutuels au début de leur carrière, mais je le dis pas pour ça, je le dis c'est qu'il y a une espèce de concours à la reconnaissance du talent de metteur en scène. Il y a quelque chose, un besoin de reconnaissance qui crée cette distanciation d'ailleurs ironique et intellectuelle. Moi, j'ai ressenti toujours chez les Coen un besoin de prouver, de regarder comme on est inventif, brillant, jusqu'à Barton Fink aussi, où t'as des mouvements de caméra assez étonnants et tout ce que tu veux, et où par la suite, une fois que cette espèce de reconnaissance était actée...
Elle a été actée avec Barton Fink. T'as quand même eu Le Grand Saut depuis, t'as quand même eu Fargo.
Fargo, typiquement, est un film qu'ils avaient volontairement l'intention, au départ, de faire en plan essentiellement statique. Donc il y avait cette volonté déjà de calmer l'ostentatoire, si tu veux, de leur mise en scène. Ils n'ont pas pu réussir. Et quand tu vois certains films derrière, il y a cette volonté quelque part de s'effacer derrière son sujet. Je suis pas en train de dire il y a une raison pour ça ou pas une raison pour ça. Et effectivement, peut-être que toi t'es plus sensible à cette innovation qu'il y avait en termes de mise en scène au préalable.
Je suis plus sensible à Sam Raimi, c'est ça que tu veux dire.
Peut-être. Mais c'est pas impossible. Et moi je trouve personnellement que quand je vois un film comme No Country for Old Men, si c'est moins ostentatoire en termes de, entre guillemets, mouvement de caméra, c'est d'une mécanique de mise en scène qui est tout simplement hallucinante.
C'est une façon de réinventer le western, en fait, qui est complètement dingue, hein, dans No Country for Old Men.
Mais ça, c'est sûr. Voilà. Et toi, c'est les comédies qui te
Moi, c'est les comédies. Et encore une fois, pas toutes. Hein, je veux dire, par exemple, je suis un très gros fan du Grand Saut, Arizona Junior. Big Lebowski, c'est encore une fois, je dis pas les personnages sont sympathiques. Enfin, tu peux pas ne pas apprécier les trois personnages principaux, par exemple. Tu peux pas apprécier plusieurs. Voilà, c'est juste en fait que le rythme en fait n'est plus là pour moi. Les scènes, par exemple, moi je sais que la comédie musicale, enfin le passage musical avec Julianne Moore, ça me fait rien du tout, quoi. Ah. C'est
mais c'est après, bon voilà, incroyable. Ça c'est du ressenti.
Après, c'est du ressenti. Bien sûr,
moi, toutes les situations comiques de Big Lebowski,
et surtout, je trouve que c'est un film qui est beaucoup moins beau que les films qu'ils faisaient jusque-là, en fait.
Je suis pas d'accord non plus, mais
ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a énormément de, il y a aussi beaucoup de choses en termes de mise en scène dans Big Lebowski qui reprennent des choses qu'ils faisaient déjà avant, qui est dans leur registre. Non, mais je comprends ce que tu dis. Quand t'avais César, moi je ne peux pas être celui qui va pouvoir te parler du film comme indépendamment du reste de leur filmographie. Oui. Donc j'ai plus ce truc du premier degré où je peux me dire ça m'a fait marrer, ça m'a pas fait marrer. Je sais que ça m'a stimulé intellectuellement. Je sais que il y a énormément de choses qui m'ont plu. Après, je peux être d'accord avec Stéphane. Je suis pas extatique sur certains éléments de comédie qui me font pas plus rire que ça.
Mais au-delà de ça, moi je le mets pas du tout pour l'instant dans le top. Je sais pas, presque 10, hein, j'ai envie de dire, des frères Cohen. Hein. C'est sympa, mais en fait, je sors de là en me disant bon, ok.
Enfin, moi, je trouve que toujours tellement 10 coudées au-dessus du reste que si tu veux.
Mais j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de différent, c'est ça le problème avec les frères Cohen de ces dernières années.
Bah, moi, thématiquement, j'ai vu vraiment quelque chose de différent, mais bon.
Il va falloir conclure, messieurs, ouais, parce qu'on a explosé tous les timings, donc on n'aura pas le temps de faire notre deuxième partie sur la film. Ah. Mais en même temps, on l'a déjà en fait un peu fait, ouais, juste pour le plaisir. Avant les recommandations, un petit extrait de Big Lebowski pour faire plaisir à Stéphane.
Merci.
Le monde est en train de devenir cinglé. Il y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles. Mets-toi zéro.
Voilà, ça marche. En ça VF, marche toujours. Ouais, en VF, mais ouais. Moi, je l'ai découvert en VF.
Mais comment tu peux dire que t'aimes Big Lebowski, quoi?
Je l'ai même, j'ai découvert.
Comment tu peux dire que t'aimes les frères Cohen? T'aimes pas les frères Cohen?
T'aimes pas le cinéma. T'aimes rien. Les recommandations, je le disais très rapidement pour finir. On change pas les bonnes habitudes. Stéphane.
Bah, moi, je suis en train de découvrir Fargo, la série télé.
Oui.
Donc,
la saison 2 notamment.
Non,
absolument extraordinaire. T'es encore sur la saison 1. Tu vas voir,
qui est déjà très bien.
Et je rappelle qu'on a un Ociné Extra Bowl fait par Alexandre Herbeau consacré à Fargo.
J'allais dire la même chose, je suis un peu emmerdé parce que moi, pour le coup, j'ai vu la saison 2.
Mais regarde, moi, je vais faire la saison 1 jusqu'à l'épisode 5. Non. Mais Yannick, ça Sarocco, c'est la saison 2. Moi, c'est la saison 1 pour l'instant, hein, on verra. c'est cette façon de reprendre en fait ce que les frères Cohen ont bâti avec Fargo et bon, de manière générale dans leur cinéma. Et à la fois de l'étendre en fait de façon épisodique, ça fonctionne très très bien. Pour l'instant, hein, moi j'ai vu 5 épisodes, c'est assez touchant en fait aussi dans cette façon de les référencer en fait assez régulièrement et pas seulement pas seulement Fargo mais d'autres films aussi, quoi. Voilà, je veux dire la présence de Billy Bob Thornton quand tu penses à The Barber, voilà, c'est assez
excellentissime.
Voilà. Et en même temps c'est pas du tout dans la mouvance actuelle, c'est-à-dire des choses, le cinéma référentiel pour la référence en fait, ça construit un récit. J'attends de voir où ça va aller, mais pour l'instant ça fonctionne très bien,
ça marche très
et
bien.
Et donc
aussi,
voilà, c'est sur Netflix, hein,
c'est
donc,
sur Netflix exactement, ouais, les deux saisons. Et donc Yannick recommande la saison 2.
Moi, la saison 1, beaucoup de gens avaient adhéré directement, moi étant un inconditionnel des Cohen. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai dû la reprendre à deux reprises. Autant j'aimais bien narrativement en termes d'intrigue. Mais c'est difficile pour moi. Mais j'aimais bien la façon dont ils amenaient le récit dans une autre direction. Après, j'étais emmerdé parce qu'il y avait des personnages, il y avait des situations où je trouvais que c'était vraiment des mecs qui essayaient de faire du Cohen sans y arriver. Je parle en particulier des deux espèces de tueurs bizarres qui arrivent à un moment donné que je trouve naze et que j'ai jamais aimé dans ce truc. Là. Mais ça m'a fait lâcher.
Ouais, sûr,
j'ai repris parce que tout le monde m'a dit la saison 2 elle est mortelle et tout ce que tu veux. Et ce qui est réellement ultra bluffant dans la saison 2, c'est comment ces mecs-là qui ont fait une œuvre sous influence, complètement sous influence, avec une espèce de respect déférent qui fait que on essaye de toujours tout raccorder, de rendre un hommage au Cohen en permanence, ils se libèrent totalement des frères Cohen à tout niveau. Ils explosent tout, ils font leur truc. Ça part dans des directions d'une audace qu'on n'imaginerait jamais en France, mais c'est hallucinant tellement c'est bien construit, bien joué, tout ce que tu veux. Et où c'est marrant, le référentiel est toujours là, mais il est essentiellement musical. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que dans la saison 2, tu vas reconnaître la musique de Big Lebowski, la musique de tel film, la musique de tel truc, ça arrive au générique de fin, et t'as cette espèce de petit truc qui te raccorde, et le reste du temps, ils ont construit en une saison un truc où t'as envie de voir ces mecs-là sur d'autres sujets, d'autres univers, tellement c'est super bien construit. La saison 2 est probablement ce que j'ai vu en télé de plus bluffant, moi, l'année dernière.
Et c'est vrai que c'est assez remarquable, et c'est donc, on l'a dit, sur Netflix, ces deux saisons. Nos ciné, c'est terminé, mais on revient dès la semaine prochaine avec une émission consacrée à The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, avec, faut-il encore le préciser, Leonardo DiCaprio, évidemment. Merci à vous deux, Yannick et Stéphane, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil. On vous invite, comme toujours, à aller fouiller dans nos précédentes émissions, il y en a plein, ça tombe bien, notamment sur Anomalisa, sur Steve Jobs, sur Le Garçon et la Bête, sur Legend, sur Creed et même, paraît-il, sur Mad Max, on sait pas. Laissez-nous tous les commentaires que vous voulez en évitant les gros mots parce que c'est mal. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.